Bonjour tout le monde. Ben écoutez, on avait envie de vous parler d'autre chose que de COVID d'entrée de jeu ce matin. Alors on s'est dit, parlons du fameux mot qui fait tant réagir. Vous n'êtes pas sans savoir ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa. Cette professeure qui a été suspendue temporairement pour avoir utilisé le mot « nègre » lors d'un cours. C'était un cours où elle essayait de replacer dans le contexte ce fameux mot qui est chargé de beaucoup d'histoires, de beaucoup de violences. Ce qu'on on n'ose même plus le prononcer. On dit désormais le mot « haine ». Les Anglos, eux, l'ont vraiment incorporé cette censure autour de ce mot-là en parlant du N-word. Aux États-Unis, on le sait, l'histoire nous le confirme, Barack Obama avait fait beaucoup parler de lui il y a quelques années en l'utilisant pour rappeler justement d'où venait ce mot-là, pourquoi ça rendait extrêmement... ça crée énormément de réactions aux États-Unis. Là. C'était à l'époque, à la suite de l'attentat de Charleston, que le président des États-Unis, Barack Obama, avait rappelé donc tout l'héritage esclavagiste, raciste qui était dans l'ADN des Américains. Chez nous, au Québec, ça fait toujours un peu étrange de se comparer aux Américains de ce point de vue-là. Les dernières semaines ont quand même fait place à tout un débat sur le racisme systémique. Il y a une frange de la population qui est contre cette idée qu'il y a un système autour de nos rapports entre blancs et noirs au Québec et qui fait qu'il y a finalement une espèce de racisme qu'on tolère. Et je pense que c'est intéressant d'en discuter. Et j'ai l'impression, nous, ce matin, qu'on a mis le doigt sur quelque chose qui est le plus tabou. Pire, si vous pensez que les accommodements raisonnables sans religion, c'est tabou, je pense que sur les tensions raciales, il y a encore un plus grand tabou. Et la preuve, c'est que ce matin, on a essayé de trouver des invités pour mon show, pour justement discuter de ce mot « haine ». Et sincèrement, à part mes deux invités que je vais vous présenter à l'instant, il n'y a pas grand monde qui a voulu se mouiller. On a vraiment essayé d'aller autant du côté des commentateurs blancs que des commentateurs noirs ou d'autres communautés culturelles. Et sincèrement, tout le monde ce matin était bien occupé. Alors, c'est peut-être la pluie qui fait ça bizarre. J'aurais envie de dire, et c'est peut-être ainsi que la censure s'installe au Québec. J'aurais envie d'avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que vous, ça vous tente d'en jaser? Moi, ça m'inquiète de voir qu'il y a un mot comme ça qu'on peut plus prononcer. Puis si on le prononce, ben tu fais face à des réprimandes sévères. L'université, entre autres, l'école ne devrait-elle pas être un lieu où les esprits doivent être ouverts? 514-790-9850 pour me donner votre opinion là-dessus. De l'extérieur de la grande région de Montréal, vous faites le 1-866-790-9850. Je vais vous présenter tout de suite mes invités pour en discuter. On va parler à Harry Julnis de l'organisme Never Was Average. Bonjour Harry.
Ça va bien, Isabelle?
Ça va très, très bien. Parle-nous un peu de toi, Harry, là, pour que les gens te situent.
Moi, je suis un entrepreneur, je suis un créatif, je suis un facilitateur, un organisateur de communauté. À Montréal, j'organise des espaces positifs dans la communauté. Je crée aussi des projets artistiques et culturels. Là.
Et quand tu dis espace, tu crées des espaces vraiment positifs dans la communauté, c'est pour engager le discours entre les Blancs, les Noirs et les autres communautés culturelles qui vivent ici au Québec.
Ouais, c'est ça, les êtres humains, en gros.
Voilà. Merci d'être là, Harry. Je vais vous présenter également René Villemur, éthicien qu'on a souvent à l'émission. Bonjour, René. René, est-il là? René?
Oui, j'y suis. Bon, je ne sais pas René. Ce qui s'est passé encore.
Mais
oui, j'y suis. Bonjour, Isabelle.
Bon, alors voilà. René, je commence avec toi et puis Harry également. Bon, je vais avoir votre opinion là, sur toute cette controverse entourant ce mot-là. René, d'un point de vue éthique, on fait face ici à un cas de censure. Est-ce que ce mot-là, le mot « C », peut-il être utilisé dans ce cas-ci?
Ben, faire taire des gens, c'est de la censure à quelque part, c'est certain. Et là, quel qu'en soit l'objet, d'accord? Mais il faut voir que les mots, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui nous permet de communiquer, c'est ce qui nous permet de véhiculer un sens. Un mot, c'est pas simplement un son, c'est un sens également. Alors, il peut pas y avoir d'histoire sans un sens, il peut pas y avoir de création artistique sans le sens. L'imposition d'une censure sur un mot, ben, c'est la perte d'une partie du sens pour une partie de la population. Maintenant, là, on a un mot qui choque. C'est pas n'importe quel mot, là. On a un mot qui choque. Cependant, il faut bien voir que dans le cas qui nous préoccupe, la personne qui a fait l'usage de ce mot-là dans un contexte pédagogique a été frappée de la pire des sanctions, c'est-à-dire elle a été carrément effacée, menacée, intimidée. Et puis ça, ben, je dois avouer que c'est un peu disproportionné, considérant qu'elle n'était pas à insulter personne avec le mot, mais plutôt à expliquer possiblement comment est-ce que les mots sont chargés de sens.
Oui. Harry, là-dessus, toi, t'es d'origine haïtienne, Harry?
Ouais,
bon. Toi, pour toi, c'est secondaire, tout ce débat autour de d'où on vient, de quelle couleur on est, quels mots on utilise. Est-ce que t'es d'accord avec ce qui se dit en ce moment entourant ce mot-là?
Écoute, moi, je vais être honnête avec toi. C'est comme tout ce que j'ai entendu par rapport à cette soit on appelle ça une controverse. C'est des choses qu'on m'a dit parce que je suis tellement en train de travailler fort. Je n'ai pas vraiment écouté ce qui se passe à la télévision, mais ce que j'ai entendu, c'est c'est pas surprenant, c'est choquant, mais tu sais, René, tu viens d'expliquer, tu dis que la censure et que le professeur, elle a été intimidée, puis elle a subi la plus pire censure, mais est-ce qu'on oublie de l'origine du mot? Parce qu'on comprend que comme il y a des gens qui ont été assassinés après que ce mot-là a été utilisé. Donc, moi, ma question, c'est ça. C'est comment que des personnes qui ne sont pas noires, qui ne vivent pas cette discrimination-là et ce racisme-là, est capable de juger si un mot a sa place ou un mot peut être prononcé comme ce mot-là. Comme moi, c'est un peu ça que j'ai un peu du mal à comprendre. Parce que René, je sais pas, je suis au téléphone là maintenant, mais je me demande, est-ce que tu es noir?
Non, je ne suis pas noir. Je suis malheureusement un homme blanc de 50 ans.
Non, t'as pas besoin de dire de malheureusement, puis ton âge n'a rien à voir aussi dans la situation. Mais c'est juste ça, j'essaie de savoir comment que t'arrives. Parce que là, on parle du côté académique. Côté académique, je comprends ça. À la fin de la journée, les professeurs doivent être en mesure de faire leur travail. Mais moi, je parle pas de ça. Moi, je te parle du côté humain. Mm-hmm. Comment que... en utilisant ce mot-là, sachant l'histoire de ce mot-là, l'origine de ce mot-là, qui est à la base la définition la plus concrète pour définir le racisme, comment ce mot-là peut être utilisé sans même prendre en considération comment que les gens se sentent par rapport à ce mot-là. C'est juste ça que j'arrive pas à comprendre. Et c'est drôle, comme tu sais, ce matin, je me suis réveillé, puis j'étais sur Facebook, dans ma routine habituelle, et je suis tombé sur qu'est-ce que Will Prosper a écrit sur sa page. Puis ouais. Je pense que ça prend. Laisse-moi juste prendre le temps de lire ce qu'il a écrit parce que je trouve que ça fait tellement de sens dans la conversation. Il dit quand le milieu académique majoritairement blanc s'en mêle, quand les médias très majoritairement blancs s'en mêlent, quand les politiciens très majoritairement blancs s'en mêlent, quand c'est le sujet de l'heure dans les médias sociaux des blancs. Tout ça pour que des personnes blanches puissent défendre l'utilisation du mot haine. On s'entend qu'il a dit, il parle du mot nègre là, dans ce contexte-là, parce que je l'ai dit moi. Puis c'est un peu ça que vous voulez entendre aussi, sur so, ou de haine, parce que c'est un mot haineux, ça il faut le comprendre aussi. C'est pas un mot académique, c'est un mot haineux. C'est ce même mot qui est assurément dans l'histoire de l'humanité le plus ancré dans les plus fondements même de la violence du racisme des personnes blanches contre des personnes noires. Constatez que vous n'êtes pas encore moralement capable de vous auto-censurer. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus gênant. Honnêtement, je ne sais pas si j'aurais pu trouver un meilleur exemple de racisme systémique. Puis quand j'ai lu ça, j'ai dit, wow, ça c'est plus clair que l'eau pour moi. Mm-hmm. Que là, aujourd'hui, on est en train de parler de l'utilisation puis de défendre le mot nègre. Puis après ça, on essaie encore de nier l'existence du racisme systémique. Mm-hmm. Comme là, maintenant, puis que... Attends, excuse-moi, je veux juste terminer.
Oui, vas-y, bien sûr. Je vais avoir ton opinion là-dessus. Là, c'est ça l'idée. Là.
Parce que l'autre affaire aussi, c'est que faut comprendre que notre génération, comme on n'est pas comme stupide, on voit que ce qui se passe. Comme exemple, là c'est un contexte pour tous les médias d'utiliser le mot nègre comme qu'ils veulent. Comme c'est pas normal que il y a un journal, j'ai vu que le ou t'sais, dans la manchette, c'était ça le mot, même pas de censure, c'était carrément comme le mot nègre, comme ça qu'ils l'ont écrit.
Mm-hmm.
Alors d'où ils sortent le droit de se prononcer sur ce mot-là? Comment on ouvre la télévision, OK, puis t'as cinq personnes blanches qui débattent sur l'utilisation du mot. Où sont les personnes noires qui vivent cette discrimination-là, qui se font agresser constamment au travail, partout où ils se promènent dans la société? C'est le premier mot que les gens vont utiliser pour les attaquer, mais eux, ils sont pas dans la conversation. Eux, c'est pas important qu'est-ce qu'ils pensent et qu'est-ce qu'ils ressentent. C'est juste ça que j'ai un peu du mal à comprendre.
Ben oui, et tu vois, on a appelé Will Prosper ce matin parce qu'on connaît bien Will, et ce matin, bon, il jugeait bon de vouloir revenir là-dessus. On a appelé Fabrice Ville, on a appelé beaucoup de gens d'origine haïtienne ou qui font partie de la communauté noire. Et je veux dire, moi, je suis prête à donner la parole à tous ceux qui veulent bien l'apprendre sur ce sujet-là. Moi, c'est plus la censure en général qui m'inquiète, tu vois, mais je comprends tout à fait la portée extrêmement émotive et chargée du mot. Sur la censure, est-ce que tu dirais, Harry, que là, effectivement, il y a inquiétude ou non? Peut-être que toi, tu penses que c'est tout à fait légitime de censurer certains mots.
Donc vous le voyez sur la perspective de censurer un mot. Moi, je le vois sur la perspective qu'il y a des gens qui ont été assassinés pendant des années, qu'ils ont été assassinés.
Ouais, je comprends tout à fait, oui. T'as raison. Et qui continuent de l'être, à la rigueur, on peut rajouter... Ouais.
Merci Isabelle de poursuivre sur ce point-là.
Mais c'est vrai. Et en même temps, j'ai envie de rajouter aussi des deux côtés, parce que ce matin, tu vois, je lisais Mathieu Bock-Côté, qui est quand même une personne sensée, et qui disait, c'est un sociologue, il étudie la société, et il dit, ce matin, je le cite, la peine de mort existe encore en France, quoi qu'on en pense, mais ce sont des islamistes qui l'exercent généralement contre ceux qu'ils accusent d'avoir blasphémé. Ici, on est bon dans un contexte où c'est la religion là, qui entre en ligne de compte, puis ça, avec la censure, c'est jamais un bon cocktail, mais c'est vrai que là, il y a un professeur en France qui a été décapité parce qu'il a montrer un dessin considéré comme un dessin haineux qu'on ne peut pas toucher, qui est une caricature de Mahomet, alors que c'était dans un contexte scolaire où on discutait. Et c'est là où, à ce moment-là, on se dit, est-ce que c'est normal de tirer des grands traits sur l'histoire?
Mais Isabelle, moi, j'ai une question.
Mm-hmm.
Quand là, les médias décident d'utiliser ce mot-là comme qu'ils veulent, dans les manchettes et tout ça, pour attirer l'attention, puis quand ils font des clickbait, donc ils n'ont pas une responsabilité sociale par rapport aux citoyens. Comme je vais donner un exemple, la personne, OK, parce que moi je te dis, moi j'ai grandi à Villeray, j'étais à Pagé, et les professeurs.
T'es allé à Lucien Pagé? Moi aussi, je suis allé à Lucien Pagé.
Oh, OK, cool. Donc, tu sais, c'est quel genre de personne qui va aller s'impager.
Mais complètement,
tu sais, ouais. Et tu sais comment que les professeurs y sont.
Mm-hmm.
Donc c'est des mots comme ça qu'ils vont utiliser pour rabaisser les élèves.
Ouais. Mais voilà. Ça devient une insulte.
Comment ça devient une insulte? Ça a toujours été une insulte.
Ouais.
Donc, je ne suis pas en train de généraliser que toutes les profs sont comme ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que il y a des personnes. Pourquoi on ne pense pas à la personne qui vit une agression, OK? Imagine un adolescent qui s'est fait traiter de ce mot-là, puis après ça, il s'est fait agressif.
Mais complètement. Mais ça, là-dessus, non, je pense. Mais t'as raison, Harry. Attends, puis je pense qu'on ne débat pas du fait que c'est une insulte, puis qu'on ne peut pas utiliser ce mot-là dans un contexte où on l'insulte. Mais dans un contexte où on replace ça dans l'histoire pour l'expliquer, est-ce que. C'est plus ça. Est-ce que les professeurs ont encore droit à ce libre arbitre et à enseigner l'histoire?
Non, moi je crois que ça a, moi je crois que ça n'a rien à voir avec le libre arbitre. Ça n'a rien à voir avec ça.
Ok. Est-ce que tu veux bien rester avec nous? J'aimerais avoir la réaction de René Villemur. Et évidemment, il y a bien des gens qui veulent intervenir. Je suis contente. Je pensais que j'étais toute seule à vouloir parler de ça. Merci Harry d'être là, puis donc de nous permettre de cheminer sur cette discussion là. Je vous pose la question. Est-ce que pour vous, un professeur devrait pouvoir utiliser un mot dans un contexte historique? Est-ce que d'après vous, et puis il y a toutes sortes de gens aujourd'hui. Je pense à Normand Brathwaite ce matin qui dit qu'il est choqué par le fait que on ait mis au banc ce professeur, qu'on l'ait suspendu. Il y a des politiciens dont Dominique Anglade qui est la première femme noire à occuper un poste comme celui de représentant chef du Parti libéral du Québec. Donc, c'est pas tout le monde qui est d'accord à ce que ça soit banni complètement de l'espace public. Vous me dites comment vous voyez ça. Dans le respect de tout le monde, bien sûr, je vous le rappelle, mais je pense que ça va de soi. 514-790-9850. De l'extérieur, on fait le 1-866-790-9850. René Villemur, éthicien, qui nous disait que il faut connaître en fait l'histoire un peu, René, hein, puis que bon, ici tu disais aussi, t'as l'impression qu'on a un peu laissé la professeure en pâture sans la protéger. J'entendais ce matin dire que elle avait peur dès la première journée où cette controverse est autour du mot « haine » qu'elle a utilisé dans un contexte historique, socio-historique, dans son cours, que depuis, elle vit dans la peur, et surtout à la lumière donc de cet attentat en France où un prof qui a utilisé des caricatures de Mahomet dans son cours, a été décapité par un extrémiste musulman. Là, la prof à Ottawa dit qu'elle a peur. Elle a peur et heureusement qu'on porte des masques aujourd'hui. Mais effectivement, il y a des élèves là, qui ont échangé son adresse, son numéro de téléphone. Bref, c'est inquiétant quand même de voir les proportions que ça a pris, René Villemur.
Que la technique du doxing, c'est-à-dire donner les coordonnées de quelqu'un sur les médias sociaux, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Mais c'est déplorable parce que ça entraîne généralement des violences et c'est une sanction disproportionnée parce que quand on donne les coordonnées de quelqu'un de manière publique, c'est quand même pas pour lui envoyer des fleurs. Donc, ça, c'est certain que c'est difficile. Par contre, je dois souligner que j'aime beaucoup le point de vue de Harry, d'accord? C'est quelque chose qui, d'une part, faut pas qu'on banalise ce sujet-là. Et puis, je crois que, personnellement, nommer, c'est dire avec du sens. Maintenant, c'est certain que le point qu'il amenait, est-ce qu'un homme blanc peut parler de racisme? Je pense que l'universalité suggère que les gens sans préjugés devraient pouvoir discuter. Et puis, c'est certain qu'il y a des hommes blancs qui pourront pas, puis il y a des hommes noirs ou des femmes noires qui pourront pas non plus parce qu'ils sont aveuglés par une idéologie ou par une conviction. Et ce qu'on a vu à l'œuvre, et ce qui fait peur à Mme Lieutenant Duval, c'est que au nom de la conviction absolue, là, on parle pas de la moyenne des gens, au nom de la conviction absolue qui a été élevée en arbitraire, on a décidé qu'elle devait être effacée, ou à peu près, là.
Ouais.
Et ça, ben, socialement, c'est inacceptable. Je veux dire, parce qu'on a ce mot-là aujourd'hui, on en aura un autre demain. Le cas en France, c'est la même dynamique. Vous savez, il est moins grave ici, peut-être, mais c'est la même dynamique. Mmh. C'est la dynamique où je n'aime pas ce que tu as dit, et donc, d'une manière ou d'une autre, je t'efface.
Oui, quand alors, tu dis lieutenant Duval, c'est le nom de la professeure. Elle s'appelle Verouchka, oui, lieutenant Duval, là, pour ceux qui se demandaient.
Absolument. Et puis, vous savez, moi, je ne nie pas le racisme. Je sais que c'est un problème dans la société. Je ne nie pas la discrimination, que je sais que c'est un problème. Mais je crois quand même que le dialogue et la construction de sens entre les communautés, c'est la voie. Et pour construire du sens, il faut pouvoir nommer. Pas nommer pour une insulte, là. Je crois que toutes les insultes, d'ailleurs, devraient être enlevées de l'espace public. Ça allégerait les médias sociaux, croyez-moi. Mais, par contre, l'idée de discuter. Regardez, il y avait, autrefois, ce qu'on appelait en Afrique l'art nègre. On dit l'art africain aujourd'hui. Bon, une question de sensibilité, mais c'est quelque chose qui a existé. C'était un hommage, il faut comprendre. Quand on prend la négritude de Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire, c'est encore là, c'est une fierté. Donc, il faut, dans tout le sens qu'on porte au mot en question, il n'est pas qu'une insulte. Mmh. Et de le rétablir.
Mais je voulais parler à Dany Laferrière ce matin, qui est un ami, puis qui bon, il est reclus en France en train d'écrire son prochain livre, mais il a fait connaître son opinion là-dessus. Puis entre autres, on l'a entendu dire, ben, c'est clair que vous avez le droit de parler de mon livre, Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer. C'est pas vrai qu'on va changer le titre de mon livre. C'est le livre qu'il a fait connaître ici à Montréal et sur la planète. Et ce n'est pas réservé qu'à lui parce qu'il est noir. Mais bon, on va revenir d'ailleurs. Vas-y.
Mais Daniel a dit quelque chose d'intéressant également. C'est qu'il a dit, écoutez, je crois que les gens sont capables de faire la différence entre une insulte et le titre d'un livre. Mm-hmm. Et ça, justement, c'est parier sur l'intelligence des gens. Ouais. Et puis, encore là, je crois qu'il y a lieu, là, ça, c'est une occasion de construire un pont entre les cultures, de construire du sens, mais pour ça, ça prend le dialogue et personne ne dialogue lorsque un intimide l'autre.
OK. On a plusieurs auditeurs qui veulent intervenir. Nos lignes sont pleines. Je commence avec vous, Sarah.
Oui, bonjour, Isabelle.
Bonjour.
Dans un premier temps, je voudrais dire que la conséquence qui a été réservée au professeur, je trouve ça que c'est exagéré. Mm-hmm. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, oui, il y a des mots qui devraient être censurés. Parce que le mot « haine » est à la base une insulte. Si on étudie l'étymologie du mot, oui, c'est une insulte. Par ailleurs, au fil des années, là, il y a des mots qui ont été retirés. Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, une personne qui est atteinte de trisomie, on peut lui dire qu'elle est mongole? Non. Mm-hmm. Les PUTES, est-ce qu'on peut dire ce mot-là? Non. On doit dire « les travailleuses du sexe ». Les personnes handicapées, on dit des personnes à mobilité réduite. Mm-hmm. Ceux qui n'entendent pas, on dit des malentendants. Et ça, il n'y a pas eu de débat, là.
Ouais,
ça n'a pas été, compliqué.
Tout à fait.
Ouais. Ça n'a pas été compliqué.
Puis tant qu'à moi, on pourrait rajouter, puis ça, il y a beaucoup de rappeurs qui l'utilisent, mais le mot « bitch », moi, sincèrement, là, quelqu'un qui dit « bitch », ça devrait être aussi mis au banc tant qu'à ça, parce que c'est une insulte, clairement. Mais il y en a qui s'en sèvrent allègrement, là.
Exactement. Mm. Et ce mot-là, le mot haine, si on revient au mot haine, qui est utilisé par les médias, je trouve ça déplorable parce que les gens qui sont derrière la radio, les journalistes, c'est des personnes qui sont intelligentes.
Ouais. Mais est-ce que ce sont les médias, vous pensez, Sarah, qui utilisent ce mot-là comme ça, sans contexte?
Ces derniers jours, il y a des médias, surtout à 98.5, qui ont utilisé à bord et à ras-bord ce terme-là. Non, ce n'est pas mis en contexte. Je suis désolée, c'est un mot qui est lourd, qui est une insulte. Les médias, les gens qui sont derrière la radio, les professeurs, ce sont des gens intelligents.
Mais pour vous, un professeur ne devrait pas, donc, Sarah, l'utiliser?
Non, parce qu'un professeur a un vocabulaire riche, supposé en tout cas. Un vocabulaire riche. Il ou elle peut utiliser de créativité pour utiliser un autre terme, mm-hmm. un autre mot. Je suis désolée.
D'accord. Ben, merci de nous faire connaître votre opinion. Est-ce que ce sont les médias? Est-ce que, écoutez, je suis mal placée pour vous le dire, sincèrement. Je ne peux pas parler des collègues que je n'aurais pas entendus là-dessus non plus. Moi, je pense que... effectivement, c'est une insulte. Ça, c'est clair. On débat pas du tout de ça. En même temps, est-ce que les médias sont les seuls à l'utiliser quand il y a une controverse comme ça? Je pense qu'il y a aussi des rappeurs aux États-Unis, entre autres, qui sont repris allègrement par leurs fans, qui ont des chansons où le mot est vraiment très, très... Il revient, disons, en boucle, souvent dans des tunes. Là, je vais vous remettre ça en contexte. Ça, là, c'est un extrait d'un spectacle de Kendrick Lamar. Kendrick Lamar est un rappeur très, très populaire aux États-Unis. C'était en 2018. Il avait fait monter une fan sur l'estrade pour chanter avec lui. Et la fan blanche, forcément, à tel point qu'on se demande si c'était pas arrangé, se mettait à chanter les paroles de ses tunes où il y avait beaucoup de N-words. Et il l'a arrêté, vous l'avez entendu, wow, 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 il lui a dit, voyons donc, qu'est-ce que tu fais? T'as pas le droit de dire le mot. Et elle a dit, ben, est-ce que je suis pas assez cool pour chanter tes tunes? Fait que j'ai envie de me tourner vers Harry, parce qu'il y a beaucoup de gens là qui m'écrivent, qui me disent, ouais, mais les rappeurs l'utilisent, puis nous, on chante ces tunes-là. Harry, Julnis de Never Was Average, comment tu vois ça, Harry?
en passant, vous êtes vraiment allé chercher un beat de Kendrick Lamar pour faire. Mais en plus, vous faites j'utilise cet exemple-là à chaque fois. Donc, premièrement, le rappeur puis la musique, c'est pas ça le sujet de conversation pour moi. Mm-hmm. Ce que j'arrive pas à comprendre, ou ce que j'aimerais comprendre, ou ce que j'aimerais ça savoir, comme l'effort que vous mettez, OK, l'effort que vous mettez pour défendre l'utilisation de ce mot-là. René, t'as dit plutôt que tu n'y avais pas l'existence du système de la systémique. Mm-hmm. Si vous étiez pour mettre un quart de cet effort-là sur combattre le racisme systémique, je pense qu'il n'y en aurait plus au Québec. Parce que vous êtes tellement en train de vous battre fort pour démontrer votre point.
Mm-hmm.
C'est incroyable. Comme j'arrive même pas à y croire pour de vrai. Vous faites tout ça là, présentement. Là. Il y a toute cette histoire-là, cette conversation-là, juste pour l'utilisation. Mais quand c'est le temps de passer aux actions, ben, on ne passe jamais aux actions. Quand c'est le temps de parler des vraies choses, de l'impact, et des conséquences que les gens vivent à tous les jours, ben ça c'est une autre conversation qui est un peu plus difficile à avoir. René a mentionné que c'est important d'avoir une communication pour tisser des liens entre communautés. Et de la façon de le faire, c'est en utilisant ce mot-là. Ça, c'est la meilleure façon de le faire.
Mais je pense qu'on est tous d'accord, Harry, pour dire que c'est une insulte. Là. Ça, je pense que...
Non, je pense pas qu'on est tous d'accord. Non? Parce que si on était tous d'accord que c'était une insulte, on n'aurait pas cette conversation-là maintenant.
Mais toi, est-ce que tu penses que c'est... Mais c'est le débat, c'est surtout, est-ce que la prof aurait dû être punie? Moi, c'est plus ça que je, sur lequel je veux discuter et entendre les gens. Toi, tu dis que c'est normal qu'elle ait été punie.
Mais pour moi, non, je suis même pas en train de parler de la prof, moi. Dans tout ce qui se passe pour vous, ce qui est le plus important, c'est la prof.
Ça fait plusieurs fois que tu dis vous, là.
La conversation est sur... L'impact du mot.
Ouais.
Mais vous voulez parler du professeur. Donc, pour moi, ça, c'est une distraction. Parce que c'est pas ça le plus important de toute la conversation.
Si elle avait dit le mot haine au lieu du mot comme tel, on n'aurait pas ce débat-là aujourd'hui, c'est ça?
Non, du tout.
Hmm.
Puis elle n'aurait pas subi de sanctions non plus.
Ouais. Mais quand tu dis vous, là, c'est pas parce que tu me vouvoies, on se connaît, c'est parce que tu mets tous les blancs un peu dans le même panier quand même, d'une certaine façon. Là.
Si j'aurais voulu dire blanc, j'aurais dit blanc. Je sais exactement utiliser le mot blanc. Quand je dis vous, je parle de la société. Je parle de tous ceux qui sont dans cette conversation-là maintenant. Là.
Ouais, je comprends.
Il faut pas mettre des mots dans ma bouche non plus là.
Non.
C'est comme elle a mentionné plus tôt là. Regarde comment la façon que le mot est utilisé dans les médias.
Mm-hmm. D'accord. Harry, je sais que tu dois nous quitter, mais merci vraiment d'avoir pris le temps. Est-ce que tu peux rester? Écoute, moi on m'a dit faut que ça en aille, mais si tu veux rester, écoute, moi
non,
j'aime ça que tu sois là.
Parce que je vais entendre.
Bon, ben parfait. Reste avec nous, c'est parfait. Merci d'être là, Harry Junis et de l'organisme Never Was Average. Et puis il fait exactement ce qu'il veut faire dans la société, c'est-à-dire il encourage la discussion. Moi je trouve qu'on a une discussion intéressante. Je veux que vous y participiez, donc je vais vous donner la parole comme Sarah a eu l'occasion de le faire. S'il y a des gens d'ailleurs des communautés qui veulent intervenir, je veux vous entendre là. Puis je pense que, comme le disait René Villemur et Harry, c'est l'occasion de communiquer, c'est l'occasion de débattre ensemble et puis d'essayer un peu de voir où s'en va notre société. À tout de suite, tout le monde. Alors, est-ce qu'on a ici raison de s'insurger contre le fait que cette professeure de l'Université d'Ottawa ait été suspendue temporairement pour avoir utilisé le mot qu'il ne faut pas prononcer? Je veux dire, c'est Voldemort, là, c'est ça. Puis on peut comprendre pour certaines communautés à quel point ce mot-là est chargé d'histoire. Pour d'autres, il y a des gens qui m'écrivent qui disent, voyons, moi, je comprends pas ce débat-là. On a Pierre qui est avec nous. Pierre, vous êtes où, vous, par rapport à toute la discussion?
Ben, écoutez, moi, je pense que, peut-être que le professeur n'avait pas à être suspendu, mais je pense que si elle n'avait pas été suspendue, on n'aurait pas eu cette conversation-là aujourd'hui.
Donc, vous trouvez que c'est positif qu'on en parle?
Ben oui, c'est positif qu'on en parle, parce que, voyez-vous, la langue française, OK, je veux dire, une nation, là, a sa culture. Sa culture, ça passe par sa langue. Et puis, sa langue, si vous prenez le dictionnaire, dans tout le dictionnaire, vous avez plusieurs mots qui ont connotation négative qui s'attachent au noir.
Mm-hmm.
Liste noire, cœur noir, magie noire, name it, là. Il y en a plein. Et là, quand on parle de racisme systémique, il n'y a pas un meilleur exemple que ça. Le dictionnaire, qui est un racisme systémique dedans. Tout ce qui est négatif. Alors, oui, il faut avoir cette conversation-là et puis qu'on se rende compte aussi qu'il y a un problème. C'est une éducation, ça part de l'éducation des gens.
Complètement.
Ça part de très loin.
Mm-hmm.
Pourquoi que le mot nègre existe? Christophe Colomb, lorsqu'il a vu là, les premières, quand il est arrivé là en Amérique du Nord, puis qu'il a vu des gens là qui avaient notre couleur de peau, la première chose qu'il a dit, oh regardez, ce sont les Noirs qu'on parlait là, que Aristote parlait, les esclaves, là, ceux qui nous sont supposés d'être nos esclaves. Ça part de loin d'Aristote. Mm-hmm. Là, on parle des choses en 1400. Donc, c'est une éducation qui s'est faite sur des millénaires,
mm-hmm.
de mettre comme de quoi que le Noir est sous-homme, qui est pas bon, puis qui est mauvais. Fait que c'est une éducation. Donc, il faut éduquer les gens.
Mm-hmm.
Ceux qui ne subissent pas ça ne se rendront pas compte de cette chose-là. Ils ne se rendront pas compte de l'effet que ça peut faire sur les gens. Aujourd'hui, on dit que oh, les rappeurs le disent, les Noirs le disent. Le pourquoi qu'ils le prennent maintenant qu'ils le disent? Parce que ça fait moins mal de se l'approprier que de se le faire tout le temps traiter.
Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y a que les Noirs qui peuvent chanter ces chansons-là? Ou est-ce qu'un Blanc qui chante une toune de rapper où il y a les mots qu'on ne peut pas prononcer dedans, est-ce qu'on a le droit de la chanter, la toune, ou on n'a pas le droit? Si on est Blanc.
Parce que là, justement, là, c'est ça le problème. C'est que même par chez nous, même chez les Noirs, étant donné qu'on a pris ce mot pour que ce soit faire moins mal, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est bon aussi. C'est quelque chose donc, qu'on devrait...
Mais alors, peut-être faudrait le dire aux rappeurs d'arrêter d'utiliser ce mot-là aussi. Là.
C'est clair qu'on devrait le dire d'arrêter d'utiliser ce mot-là. Mais c'est comme... C'est tellement... C'est
parce que sinon, êtes-vous d'accord, sinon, Pierre, que ça devient du racisme inversé, mais du racisme inversé, c'est du racisme. Là. Si on dit il n'y a que tel groupe culturel dans la société qui a le droit de dire tel mot parce qu'eux ont le droit de se l'approprier, mais pas les autres, d'une certaine façon, il y a de l'iniquité là-dedans. Là.
C'est clair qu'il y a une équité. Moi-même, je sais qu'il y a des Noirs qui veulent dire, OK, nous, on peut l'utiliser. Mais non, nous, on devrait même pas l'utiliser. Nous,
exact. Moi, je suis d'accord avec vous. Ouais, exact.
On se rabaisse.
Exact.
Et c'est ça, c'est les gens qui comprennent pas. Tu peux pas te rabaisser. Tu veux avoir une éducation. Psychologiquement parlant, là, il faut que tu te réfères.
Exact. Nous, et moi, je suis d'accord avec vous. Personne l'utilise. Il faut que ça soit égal pour tout le monde.
Exact. Personne doit l'utiliser. Mais il faut quand même que cette histoire-là, l'histoire-là de l'esclavage, tout ça, il faut que ça reste.
Mm-hmm.
Parce qu'on veut pas que ça se répète. Il faut pas que ça se répète. Et ça peut glisser dangereusement vers là aussi.
Ouais.
Même si là qu'on dit oh, on est dans 2020, ça se peut pas. Écoutez, là, tout se peut. Regardez Trump là, qui est président, là, tout se peut.
Ouais. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Ça a été un plaisir de vous parler. Là, ça va vite, là. Puis c'est important là, tout ce qu'on dit. Je trouve ça intéressant ce que Pierre vient de nous dire. On va à la pause, mais on revient tout de suite après. Two-thirds a person, rapings and beatings and suffering that worsens. Black human packages tied up in strings. Black rage can come from all these kinds of things. Il est professeur à l'Université de Montréal. Benoît Melançon est avec nous. Il a publié ce matin dans la Presse Plus un billet. Bonjour, Benoît Melançon.
Bonjour, Madame Richard.
Je veux avoir votre opinion là-dessus. Vous êtes professeur. Vous dites notre travail à nous, professeurs, est évalué en fonction de plusieurs critères. Comment vous voyez toute cette histoire qui met en cause une de vos collègues à l'Université d'Ottawa?
Alors, le point de vue que je veux défendre dans mon texte de ce matin, et c'est un point de vue que je n'avais pas suffisamment entendu à mon goût, c'est que quand on travaille sur des objets culturels anciens, ce qui est mon cas, moi je travaille sur la littérature française du 18e siècle, ben on est souvent confronté à des textes qui ne correspondent pas du tout à nos valeurs. Dans mon texte de ce matin, je donne l'exemple de Candide de Voltaire. Voltaire, c'est l'écrivain le plus célèbre en Europe au 18e siècle. Il n'y a personne de plus grand que lui. Et pourtant, il dit des choses qui nous déplaisent. Je pourrais vous donner un autre exemple très clair, hein? Le Marquis de Sade. Le Marquis de Sade, c'est un classique aussi. Alors, ma question, moi, c'est comment je fais pour enseigner ça? Je dois tenir compte, évidemment, des sensibilités actuelles, Mais je peux pas faire comme s'il y avait pas des portraits de sévices sexuels chez le Marquis de Sade, ou comme si Voltaire était pas antisémite. Il est antisémite. Donc j'ai besoin, moi, de réfléchir à l'histoire pour présenter les choses, et je peux pas être par avance censuré. Hein. Je peux pas par avance m'interdire de parler de ces auteurs-là, parce que ça correspond pas à ce qu'on voudrait lire ou entendre aujourd'hui.
Êtes-vous inquiet de ce qui se passe?
Ben, évidemment. Alors, il se trouve que je suis en contact avec certains des 34 signataires de la lettre des professeurs de l'Université d'Ottawa. Il y a des amis à moi là-dedans. Ils sont évidemment très, très, très troublés par ce qui leur arrive personnellement, parce que c'est des choses dont il faut débattre. Évidemment, c'est un sujet de débat. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pas par la divulgation sur Twitter d'une adresse personnelle ou par des insultes, hein, fucking francophones ou fucking frogs. Ça marche pas, ça. Mm-hmm. Et donc, ces profs-là sont véritablement assez bouleversés, personnellement, là, humainement. Ils le sont intellectuellement, et je le suis aussi. Et dans mon texte, ce que je dis, c'est que c'est Madame Lieutenant Duval, elle a fait son travail. C'est exactement ça qu'on attend d'un prof d'université. Elle a fait ce qu'on attendait d'elle. Ce que mes 34 collègues ont fait, c'est pareil. C'est pas du tout le cas du doyen de la Faculté des Arts et du recteur de l'université, qui, eux, à mes yeux, n'ont pas fait du tout leur travail, en ne défendant pas la chargée de cours en question, en ne défendant pas les lettres et sciences humaines. Ils n'ont pas fait ce qu'on attendait d'eux.
Oui. Qu'est-ce que vous allez-vous changer des choses dans votre façon d'enseigner? Vous concluez d'ailleurs votre article, votre essai en disant « J'aurai à réfléchir désormais à mes méthodes d'enseignement, façon de... »
Ça m'est déjà arrivé, oui. Tout à fait. Ça m'est arrivé à cause de MeToo. Je faisais un cours au printemps où j'abordais un poème parfaitement inconnu là, de la fin du 18e siècle, dans lequel il y a la description d'une agression sexuelle. Il y a eu tout un débat en France chez mes collègues. Hein. Comment on fait pour parler d'un poème comme ça? Ben, c'est une vraie question. Puis j'ai dû réfléchir à ça. Puis j'ai dû faire attention, ce qui est assez banal, ce qui est assez normal, à ma façon de présenter la chose. Mais je me suis rendu compte en enseignant Voltaire ce printemps, aussi dans le même cours, qu'il y a certains passages que je vais devoir présenter de façon différente, que je présentais d'une façon assez intellectuelle en disant, bon, il y a tel problème qu'on peut relier à tel statut de tel mot du 18e siècle. Ben là, je me rends compte que ce mot-là, il peut choquer. Donc, je vais devoir en mettre compte. Je ne vais pas m'empêcher de l'utiliser, mais je vais devoir réfléchir à ma façon de contextualiser ce que je raconte.
Ouais. Merci beaucoup, Benoît Melançon, d'avoir pris le temps de nous parler. Benoît Melançon est professeur à l'Université de Montréal. On va conclure là-dessus avec mes invités, René Villemur, éthicien, Harry Julnis, qui est organisateur chez cet organisme, Never Was Average. Harry, il y a Alain qui m'écrit, il dit le mot N est toujours dans le dictionnaire, on devrait pouvoir l'utiliser. Et c'est effectivement, je vérifie dans le petit Robert, puis on dit, terme devenu raciste, donc c'est clair, on dit que c'est un mot raciste, sauf quand il est employé et revendiqué par les Noirs eux-mêmes. On cite, on parle d'esclaves noirs, on parle de négritude, on explique esclavage, travailler comme un aigle, très durement. Donc, il y a la définition dans le dictionnaire. Devrait-on enlever le mot du dictionnaire, d'après toi, Harry?
Moi, d'après moi, je pense qu'il faudrait revoir tout l'utilisation de tous ces mots-là, mais ça devrait être fait par le système qui est en place maintenant, mais ça devrait être fait par les communautés qui vivent ce racisme-là, donc ce qui veut dire les communautés noires. Parce que là, on parle du système d'éducation, mais on s'entend que le système d'éducation, on s'entend que les professeurs noirs et autres sont très, très sous représentation. Donc, est-ce que c'est qui prend en considération de toutes ces nuances-là?
Ouais.
Sur ça, pour moi, c'est un point qui est définitivement abordé. Encore une fois, moi, je dois entendre tout ce que les professeurs des communautés noires, ils ont à dire sur le sujet parce que je ne les ai pas encore vus à la télé ni à la radio. Mais en passant, Isabelle, ton show est vraiment populaire parce que là, je suis sur Instagram, je reçois plein de messages. Les gens, ils ont des questions. Est-ce qu'on peut prendre une question que je viens de recevoir ici?
Vas-y, rapidement, il nous reste une minute.
Ok, cool. Il y a cette fille qui demande, toi et Isabelle, c'est quoi ton niveau de confort à l'utilisation par rapport au mot N?
Moi, je l'utilise... Ben, pour moi, c'est un terme raciste. Clairement, c'est une insulte. Comme white trash, utilisé par beaucoup de gens de certaines communautés, pour moi, c'est une insulte. Quand c'est une insulte, toute insulte pour moi est épouvantable. On me traite tous les jours de maudite française parce qu'il y en a qui se souviennent que je suis née en France. Puis c'est une insulte aussi. Mais ça, les Français, on les insulte tout le temps, mais ça, ça a l'air que c'est correct, on a le droit. Alors, tu comprends, pour moi, toute insulte et devrait être banni, tu comprends? Moi, je suis pour l'amour universel, mais est-ce que les professeurs doivent être punis parce qu'ils utilisent des mots dans un contexte historique? Je pense que non. C'est ça mon opinion, puisque c'était la question. Écoute, Harry, sincèrement, merci d'avoir passé l'heure avec nous. Merci de nous avoir donné ton point de vue. Puis on aura d'autres discussions là-dessus. Je pense que c'est bon. René Villemur, René n'a pas eu le temps de conclure, mais merci beaucoup d'avoir été là. René Villemur, éthicien, toujours passionnant. On se retrouve après les nouvelles.